Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'ai l'habitude de présenter la microbiologie à des étudiants et je suis très heureuse de le présenter ça à des lycéens aujourd'hui. Je vais peut-être vous dire quelques mots de l'AFSA. L'AFSA, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les médias parle quelquefois de l'AFSA. Hein. Vous avez été concerné quand Martin Hirsch, directeur à cette époque-là de l'AFSA, a dit oh ben, nos jeunes Français mangent trop de sucre, on va supprimer les sucreries dans les distributeurs automatiques. C'était sur un avis de l'AFSA. Mais l'AFSA est divisée en deux activités assez différenciées. Il y a une activité de recherche et d'appui scientifique et technique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On étudie des process, on met au point de nouvelles technologies d'analyse. Et c'est des projets de recherche qui durent 2, 3 ou 4 ans. Le but, quand on fait de la recherche, c'est de publier, c'est de faire savoir ce qu'on a apporté de nouveau. Et on publie ça dans des revues internationales, on fait savoir ça dans des colloques, par des conférences, par des posters. Et il y a une autre activité qui est différente, c'est l'activité par laquelle l'AFSA est le plus connue, c'est une activité qui est menée par l'ADERNS, Direction d'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires. C'est ceux qui émettent des avis. On parle des avis de l'AFSA. Comment naît un avis de l'AFSA? C'est sur une saisine. Et qui saisit l'AFSA? Ben, ça peut être nos administrations de tutelle. On en a 3. L'agriculture, l'économie et la santé. Ou ça peut être les associations de consommateurs. Ou ça peut être l'AFSA elle-même. Quand c'est l'AFSA, on parle d'autosaisine. Mais ce n'est pas une personne, un Français individualisé. Ces avis de l'AFSA sont donnés par des comités d'experts. Alors, il y a 12 comités d'experts spécialisés. Hein. Moi, je fais partie d'un, c'est microbiologie. Il y en a un sur la nutrition, il y en a un sur la santé animale, il y en a un sur l'eau. Enfin, il y a 12 comités d'experts spécialisés. Et comment on choisit les experts? Ben, les experts présentent des dossiers. Il y a quelques personnes de l'AFSA, j'en fais partie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça réunit toutes les personnes qui ont une certaine compétence sur le sujet. Voilà, et l'AFSA, il travaille sur différents dangers. Ce qu'on appelle danger, c'est ce qui peut avoir un impact sur votre santé. Il y a la microbiologie, la physico-chimie, les problèmes nutritionnels, et elle travaille ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire qu'elle a une activité sur toute la chaîne, la chaîne alimentaire. Alors, moi, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le LERCAP, et il est chargé de travailler. Le LERPAC est divisé en unités de recherche, et une des unités, c'est la mienne, elle s'appelle MQER, microbiologie quantitative et estimation des risques. Ça veut dire quoi? Je travaille sur quoi? Je travaille sur la contamination des aliments, sur la croissance des bactéries dans ces aliments et sur l'appréciation quantitative du risque. Alors, qu'est-ce que c'est que l'appréciation quantitative du risque? Ben, si je vous donne le résultat, je pense que ça sera la façon la plus simple de vous faire comprendre. Le risque, c'est la probabilité d'être malade quand je mange une portion, par exemple. La probabilité, vous avez peut-être entendu parler de listeria. La probabilité d'avoir une infection à listeria quand je mange une part de fromage au lait cru, c'est ce qu'on appelle le risque. Elle peut être traduite d'une façon différente. Le nombre de malades, le nombre de Français qui vont avoir une infection à listeria monocytogenèse pendant une année donnée. Voilà, alors maintenant je vous ai préparé un petit PowerPoint sur les micro-organismes. Alors, il y a différents types de micro-organismes, différents types, on va parler surtout des bactéries, parce que les micro-organismes c'est plus large que ça, hein, il y a les virus, il y a les moisissures, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des bactéries technologiques, des bactéries d'altération et des bactéries pathogènes. Qu'est-ce que c'est que les bactéries technologiques? Ben, là aussi, un exemple, c'est ce qui permet de mieux comprendre. Si vous pensez au camembert, il y a la partie moisissure, la partie blanche du camembert, comment elle a été développée? Par Penicillium camemberti. Si vous pensez au roquefort, dans le roquefort, qu'est-ce qu'on a introduit pour la fabrication de ce fromage? Penicillium roqueforti. Des micro-organismes qui ont une influence technologique, vous pensez au yaourt par exemple, qu'est-ce que vous introduisez? Vous introduisez des ferments lactiques qui vont transformer le lait en yaourt. On peut laisser les aliments et penser aux boissons. Pour fabriquer de la bière, vous avez besoin de micro-organismes. Les bactéries, les micro-organismes d'altération aussi. Les bactéries d'altération, c'est celles qui ne vous rendront pas malade, mais qui vont changer les caractéristiques organoleptiques de votre aliment. Pensez à votre salade, la salade verte, qui devient un peu poisseuse. Pensez au poulet qui ne va pas vous rendre malade, mais qui a une odeur désagréable, à cause de pseudomonas, c'est des bactéries d'altération. Pensez à la moisissure qui va se développer sur un fruit ou un citron. Donc, elles ne vont pas aller jusqu'à vous rendre malade, mais elles vont rendre la denrée inconsommable. Et il y a les bactéries pathogènes. Alors, je vous ai présenté je vais vous présenter quelques bactéries pathogènes en vous donnant leurs caractéristiques, quelques-unes de leurs caractéristiques et leurs symptômes. Alors, il y en a une qui est assez connue, c'est Salmonella. Là, vous la voyez sur une gélose. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut isoler des bactéries? On les fait pousser sur des géloses et elles ont un aspect caractéristique. Ça, si vous mettez une autre bactérie que Salmonella, elle va sur ce milieu, c'est ce qui est le milieu XLD, et elle ne va pas donner les mêmes caractéristiques de cellules. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une colonie. Qu'est-ce que c'est qu'une colonie? C'est une bactérie qui s'est divisée en deux. Chaque bactérie se divise en deux. Et finalement, à partir d'une cellule, d'une Salmonella, on obtient une colonie. Alors, pour cette Salmonella, quelles sont les conditions de croissance? Ça, c'est très important. La température minimale de croissance d'une bactérie, c'est très important parce qu'il faut se dire, mon frigo, il doit être en dessous de cette température minimale si je veux empêcher ma bactérie de se développer. Donc, la température minimale de croissance de Salmonella, c'est 6 degrés. Alors, les bactéries pathogènes sont souvent associées à un aliment. Salmonella, c'est associé surtout aux volailles, c'est associé surtout à la viande, bovin par exemple. Alors, aux volailles et aux œufs. Les œufs, il y a eu un débat il y a quelques années sur la conservation des œufs, frigo ou pas frigo. Alors, pourquoi il y avait ce débat? Parce que Salmonella peut être une source d'intoxication alimentaire dans les œufs. Et comment se fait-il? Parce que normalement, un œuf, c'est stérile. Dans la majorité des cas, votre œuf sera stérile, donc on peut le conserver à température ambiante. Mais quelquefois, parce que c'est une anomalie, la poule qui était porteuse d'œufs, porteuse de Salmonella va contaminer l'œuf. Alors si l'œuf est contaminé par Salmonella et si vous laissez votre œuf à température ambiante, les salmonelles vont se multiplier mais jusqu'à atteindre un million mais voire plus de germes, un million de salmonelles par gramme d'œuf. Et à ce moment-là, vous développez une salmonellose. L'incubation, combien de temps y a-t-il entre l'ingestion de la salmonella et le développement des symptômes? 6 à 72 heures, généralement 12 à 36 heures. Bon, en gros, dans les 3 premiers jours qui suivent l'ingestion des salmonella, vous êtes malade. Et quels sont les symptômes? C'est une gastro avec fièvre. vous vomissez, vous avez une diarrhée et vous avez une forte fièvre. Et une infection à salmonella va vous rendre mal, vraiment pas très bien, pendant une semaine. Clostridium perfringens. Alors, Clostridium perfringens, c'est une bactérie anaérobie, c'est-à-dire elle a la particularité de se développer en absence d'oxygène. La température minimale de croissance est de 12 degrés. Alors, vous allez me dire, mais 12 degrés, c'est suffisamment élevé, tous nos frigos sont en dessous de 12 degrés. Alors, pourquoi cette bactérie est-elle dangereuse? À quoi est-elle associée? Comme on a associé tout à l'heure Salmonella avec les volailles, les œufs, les viandes. À quoi on peut l'associer? C'est aux grosses pièces de viande qui refroidissent lentement. Pourquoi? Parce que cette bactérie, elle a la forme d'un bâtonnet qui peut être détruit par la chaleur, mais quand on fait chauffer la grosse pièce de viande, ce bâtonnet, ce qu'on appelle une forme végétative, se transforme en une forme de résistance qui s'appelle la spore. La spore va résister aux températures de cuisson de la viande, et après, pendant toute la période de refroidissement, ces spores qui ont résisté vont se transformer en cellules végétatives, les cellules végétatives vont se multiplier, et c'est vous qui allez ingérer une grosse quantité de cellules végétatives qui allaient être malades. Le temps pour être malade, c'est assez rapide, le temps d'incubation est assez rapide, 8 à 12 heures, c'est-à-dire que vous êtes malade dans la journée même. Et les symptômes, c'est diarrhée, douleur abdominale. Staphylococcus aureus. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi staphylocoque doré. Où il se trouve ce germe, vous êtes peut-être porteur de ce germe. Il se trouve surtout dans les voies respiratoires, notamment dans le nez, dans la bouche. C'est pour ça qu'il faut éviter de tousser sur des aliments. Et puis, il peut se trouver dans les plaies. Si vous avez une plaie au doigt, elle peut être contaminée par Staphylococcus aureus. Si vous avez un panari, il peut être plein de Staphylococcus aureus. Donc, vous pouvez être porteur de Staphylococcus aureus. Les conditions de croissance, la température minimale de croissance est basse, 5, c'est-à-dire qu'à partir de 5 degrés, ce staphylocoque peut se développer. Et puis ce staphylocoque, il synthétise, il peut ne pas synthétiser de toxines, il peut synthétiser une toxine ou il peut synthétiser plusieurs toxines. Et ce qui est ennuyeux, c'est que ces toxines sont thermostables, c'est-à-dire qu'elles résistent à la chaleur. Vous allez faire cuire votre aliment, et ça c'est souvent associé aux produits laitiers, c'est par exemple associé au gâteau, hein, aux pâtisseries. Vous allez faire cuire le produit laitier pour faire par exemple une préparation pâtissière. S'il est contaminé par staphylocoque, vous allez détruire le germe, mais vous ne détruirez pas la toxine. Le temps d'incubation, il est court, c'est 1 à 8 heures. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la maladie des banquets. Pourquoi on l'appelle la maladie des banquets? Parce que vous êtes malade avant même d'avoir quitté le lieu où vous avez pris votre travail, parce que le banquet, ça dure un peu longtemps. Alors, pas loin de là, il y a quelques années, il y a longtemps, il y a un restaurant du Bois de Vincennes, qui avait servi un mariage, et ça a été très spectaculaire parce que, faut que je vous dise que les symptômes, c'est souvent des vomissements accompagnés de diarrhée, et une grande quantité de gens du mariage ont été malades sur le lieu du banquet, sur le lieu. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un cuisinier avait une infection au doigt et avait contaminé tout le dessert. Staphylococcus aureus, la maladie des banquets. Bacillus cereus. Alors, Bacillus cereus, lui, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il produit deux toxines. Une toxine diarrhéique et une toxine émétique. Émétique, ça veut dire qu'il fait vomir. La température de croissance est basse. On a des souches qui poussent à 5 degrés. Pour les bacillus cereus qui produisent une toxine diarrhéique, eh ben, l'incubation est courte, 12 à 8 heures avec symptômes diarrhée et douleur abdominale. Et pour bacillus cereus qui produit une toxine émétique, la durée d'incubation est encore plus courte, 1 à 5 heures, et il produit des vomissements. Alors là, à quoi on peut l'associer? Alors, Bacillus cereus, on le trouve dans beaucoup d'aliments. On le trouve notamment dans les produits en poudre, les soupes en poudre, les produits lactés, les produits pour dessert qui sont à délayer dans l'eau en poudre. Et il est associé aussi au riz. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous faites du riz et que vous ne le consommez pas chaud, mais que vous voulez le consommer en salade, vous le consommez froid, ben, pendant cette période de refroidissement, Bacillus cereus se multiplie, synthétise ces toxines et vous pouvez avoir des diarrhées ou des vomissements. Alors bon, ça peut être un problème dans certains restaurants qui servent du riz en grande quantité et qui n'ont pas de cellule de refroidissement rapide. Qu'est-ce que c'est une cellule de refroidissement rapide? Contrairement à un frigo, il est fait pour maintenir à température. La cellule de refroidissement rapide est faite pour descendre en température. Et il est très important de faire refroidir ces aliments le plus rapidement possible. Listeria. Alors là, Listeria monocytogenes, la presse s'en fait écho de temps en temps, c'est assez connu. Alors, la température de croissance, c'est très bas. J'ai mis 0 degré, mais en réalité, il y en a qui poussent encore à moins 1 et moins 2 degrés. C'est pour ça qu'on l'appelle la maladie des frigos. C'est pas parce que vous la trouvez dans votre frigo, contrairement à ce que certains journalistes disent, c'est parce qu'elle peut pousser encore, elle peut se multiplier à la température de votre frigo. L'incubation, alors, entre le moment où vous avalez Listeria monocytogenes et le moment où vous êtes malade, la durée peut être très 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 variable de 2 à 70 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une enquête, quand vous avez un malade et qu'on fait une enquête, allez lui demander ce qu'il a mangé 2 mois avant. Déjà, hein, 3 jours avant, ça on a des fois du mal. Alors les symptômes de cette listériose. Il y a la listériose de l'adulte. C'est une septicémie qui peut être accompagnée d'une infection du système nerveux central. En fait, vous pouvez avoir une méningite et c'est plus grave que les cas qu'on a vus précédemment, parce que avoir une gastro-entérite, c'est pas drôle, mais en général, si on n'a pas une faiblesse, on s'en sort bien, alors qu'avoir une méningite, c'est très sérieux. Et puis, il y a un autre point qui est sensible, c'est que quand une future maman, une femme enceinte est contaminée par Listeria monocytogenes, elle peut contaminer son bébé. Et soit il y a avortement, soit le bébé l'est contaminé et il a besoin de soins spéciaux. Alors, et puis, il y a quelques cas de gastro-entérite, mais ça, c'est des cas beaucoup plus rares. Ce qu'il faut savoir, je pense qu'il faut retenir de Listeria monocytogenes, c'est que quand vous avez une femme enceinte, faut éviter de lui faire manger des produits qui sont susceptibles d'être contaminés par Listeria monocytogenes. Et quels sont ces produits? Ben, vous en avez dans les fromages au lait cru, vous en avez dans du saumon fumé et vous en avez dans des charcuteries. Donc c'est une précaution, c'est un principe de précaution d'éviter ces produits-là pendant quelques mois, pendant qu'on est enceinte. Autre chose pour Listeria monocytogenes, c'est qu'actuellement, il y a un problème en France, on a une recrudescence depuis 2 ans du nombre de listérioses. On est passé de 250 à plus de 300, je crois. Et alors, si on avait ce souci qu'en France, mais dans d'autres pays, il y a 4 ou 5 pays d'Europe, dont l'Angleterre, je crois, ou même en dehors de l'Europe, puisque même la Suisse, qui ont ce même phénomène, et on ne sait pas pourquoi. Il y a quelques pistes qui sont avancées. Est-ce que, parce qu'on a diminué le taux de sel, quand on diminue le taux de sel dans un aliment, les micro-organismes peuvent plus se développer. Est-ce que c'est parce qu'on a diminué le trop de sel et que l'hystérie arrive à atteindre un certain niveau? Est-ce que on a une population trop fragile? Le personnel médical nous dit par exemple que pour les personnes âgées qui ont un cancer, alors qu'il y a quelques années on évitait de leur faire des chimiothérapies, on leur distribue maintenant des chimiothérapies. Est-ce que ces personnes âgées trop affaiblies sont plus sensibles à la listériose? En fait, c'est un problème de santé publique émergent pour lequel on n'a pas la solution actuellement. Clostridium botulinum. Alors là, il est connu. Pourquoi? Parce qu'il agit par une toxine. Il synthétise une toxine et cette toxine peut agir à des doses très très faibles d'une toxine qui est présente dans l'aliment à un ordre de grandeur du nanogramme par kilo de personnes peut rendre malade. Et c'est très grave parce que les symptômes, on commence par des troubles oculaires, la personne louche. On a des troubles bucco-pharyngés, c'est-à-dire que la personne a du mal à avaler. Et puis, dans les cas très graves, on peut avoir une paralysie respiratoire et mort. La température minimale de croissance est très faible, de 3,5 degrés. Alors, je peux vous citer une ou deux anecdotes pour vous parler de Clostridium botulinum. Le cas d'une ménagère qui avait ouvert une boîte de petits pois, et puis, comme tous, quelquefois on ouvre une denrée alimentaire et on ne sait pas trop, ça ne sent pas vraiment mauvais, mais on a une impression bizarre. Donc, elle goûte ces petits pois, elle dit bon, non, ils ont ils ont bon goût, je vais les servir à ma famille. Donc, elle fait chauffer les petits pois, elle les sert à sa famille. Problème, elle est malade, elle a le botulisme, parce que la maladie donnée par Clostridium botulinum, c'est le botulisme, tant qu'elle développe ces symptômes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La toxine, cette toxine-là est thermosensible, c'est-à-dire qu'elle est détruite par la chaleur. Elle a coûté ses petits pois avant de les faire cuire, elle a absorbé la toxine, alors que dans sa famille, son mari et ses enfants ont mangé les petits pois qui ont été chauffés, et une cuisson a suffi à détruire la toxine. À quoi on l'associe, cette toxine aussi? On l'associe à des conserves mal faites. Méfiez-vous des conserves ménagères, parce que si vous n'avez pas une température de stérilisation, et la température de stérilisation, c'est une température qui vous permet de détruire les spores, vous n'aurez pas une vraie conserve. Et comment on détruit les spores? Il faut 120 degrés, 20 minutes pour détruire les spores. Donc méfiez-vous des conserves ménagères. Et puis, quelques mots quand même. Le Botox, qu'est-ce que c'est? C'est de l'actoxine de Clostridium botulinum. Ce Botox qu'on injecte dans les rides, c'est de la toxine de Clostridium botulinum. D'ailleurs, j'ai lu que si la toxine n'était pas très bien injectée, les patientes qui se faisaient soigner commençaient à loucher, donc commençaient à avoir les symptômes de botulisme. C'est affreux, hein? Moi, je préfère garder mes rides. Non, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de cette toxine-là? C'est aussi une arme qu'on craint. Comme elle agit à toute petite dose, c'est une arme terroriste, quoi. C'est quelque chose. On a toujours peur qu'un terroriste nous envoie de la toxine botulinum dans une canalisation à Paris, quoi. C'est à craindre. Escherichia coli au 157H7. Alors ça, c'est un germe émergent. Qu'est-ce qu'on appelle un germe émergent? C'est un germe qui causait pas de soucis il y a quelques années et qui en cause maintenant. Et ce qu'on a, on l'appelle le germe des steaks hachés, parce qu'effectivement, on le trouve dans les steaks hachés. La température de croissance minimale est faible, 7 degrés. Et qu'est-ce qu'il produit? Il produit d'abord des diarrhées qui peuvent se transformer en diarrhées sanglantes. Vous pouvez avoir de la fièvre, vous pourrez bien vomir, mais surtout, chez les enfants de moins de 15 ans, ça se transforme en CHU, syndrome hémolytique et urémique. C'est-à-dire que ces enfants-là ont des problèmes de reins et ils doivent aller pour des... je trouve plus le nom, si vous pouvez m'aider, des dialyses. Ils doivent aller pour des dialyses à l'hôpital. Alors, on a eu ça il y a quelques années. La presse s'en est fait l'écho dans une entreprise. J'ai vu il y a quelque temps un cadre de l'entreprise qui m'a dit que les enfants touchés étaient toujours sous dialyse et que toute l'entreprise de fabrication des steaks hachés du directeur jusqu'aux personnes sur la chaîne de fabrication ont mal vécu parce que chacun à son niveau s'est senti un peu coupable. Alors, je voudrais vous parler aussi d'Enterobacter sakazaki. C'est un germe émergent aussi. Sa température de croissance minimale est de 6 degrés, l'incubation est de 4 à 5 jours, il produit des septicémies, des méningites, mais surtout, c'est un germe qu'on peut trouver dans les formulations infantiles, c'est dans les laits déshydratés pour bébés. Et on a eu en France, en 2004, 2 décès de nouveau-nés contaminé par Enterobacter sakazaki. Et il y a une publication en 2002 qui disait que la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de lait en poudre contaminé, était de 14%. D'où l'intérêt quand on fait des biberons, de ne pas garder le biberon à température ambiante pendant une très longue durée. Le mieux, c'est de faire le biberon et de donner au bébé immédiatement. Alors, les causes d'intoxication alimentaire. Eh bien, j'ai mis une flèche rouge parce que le plus souvent, c'est le non-respect de la température, c'est le non-respect de la chaîne du froid. Vous avez vu, chaque fois que je vous ai présenté un germe, je vous ai donné sa température minimale de croissance, c'est-à-dire qu'il faut se trouver au-dessous de cette température pour que le germe ne se multiplie pas. Si vous trouvez un peu au-dessus, si votre frigo, au lieu d'être à 4, est à 6 ou à 8, le micro-organisme commence à se développer, mais commence à se développer lentement. Et si vous vous trouvez 10 à 12 degrés, il va se développer un peu plus vite. Et il faut savoir qu'à partir de 10 degrés, tous les micro-organismes pathogènes peuvent se multiplier ou synthétiser leurs toxines. Il peut y avoir des erreurs dans le processus de fabrication. Il peut y avoir des contaminations par l'équipement et le personnel. Si on demande aux personnes de s'équiper, de porter des charlettes, de porter des blouses, c'est parce pour éviter qu'ils n'apportent leurs micro-organismes. La matière première peut être contaminée aussi. Il faut éviter les délais importants entre la préparation et la consommation. Je crois qu'il faut se rappeler de 3 choses simples pour éviter des maladies d'origine alimentaire comme celle dont je vous parle aujourd'hui. Il faut éviter de contaminer l'aliment. Donc, à notre niveau, c'est surtout au niveau du personnel ou au niveau du matériel qui sert au tranchage. Donc, éviter de contaminer. Éviter la multiplication des bactéries. C'est éviter la multiplication, ça veut dire quoi? Les conserver dans un frigo bien réglé, en dessous de la température du frigo, normalement ça doit être 4 degrés. Et puis, c'est cuire suffisamment. Alors, cuire suffisamment, si vous cuisez, vous éliminez 2 minutes à 70 degrés, par exemple, vous éliminez toutes les cellules végétatives. Il vous reste les spores, il vous reste certaines toxines, mais déjà toutes les cellules végétatives sont éliminées. Alors, comme on parle souvent de la chaîne du froid, je vous ai amené un schéma. Donc là, il y a le meuble frigorifique. Donc qu'est-ce qui se passe à partir du meuble frigorifique? Ça, c'est un meuble frigorifique réglé entre 6 et 8 degrés. Au moment où vous faites l'achat, la température, c'était du saumon fumé, c'était dans du saumon fumé, augmente et peut aller jusqu'à 13 degrés. Vous rentrez à la maison et vous le mettez dans votre frigo. Et là, c'est un frigo bien réglé parce que c'est un frigo qui allait entre 2 et 3 degrés. Avant, qu'est-ce qui se passe? C'est là... Tiens, ça marche déjà. Si, c'est moi. C'est, vous voyez, avant le meuble frigorifique, vous voyez ce qui se passe dans la conservation dans le magasin. Donc, avant en présentation à la vente, c'était à peu près 4 degrés. Ce qui se passe pendant le transport, c'était 4 degrés aussi. Et ce qui se passe à l'usine, c'était entre 2 ou 3 degrés. Ça veut dire... Ça signifie quoi, ce qu'on voit là? C'est que... jusqu'à la distribution, c'est à peu près ce qui se passe en réalité. Si on multiplie les courbes, on aura à peu près ça. Jusqu'à la distribution, on n'a pas trop de soucis. La température est souvent inférieure à 4 degrés ou ne dépasse pas 4 degrés. Au niveau de la distribution, dans les meubles de vente, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que il y a des cycles de dégivrage qui font des pics sans arrêt. Hein. Donc c'est plus difficile de maintenir une température stable à 4 degrés, assez basse à 4 degrés. Au moment de l'achat, au moment de l'achat, en fait, c'est pas très soucieux. On monte d'une manière importante, mais dans une durée qui en général ne dépasse pas une heure. Donc les micro-organismes ont pas tellement le temps de se développer. Et chez le consommateur, alors là, c'est un frigo bien réglé, mais la moyenne en France des frigos ménagers, c'est de 7 ou 8 degrés. Et là, il serait nécessaire de faire une campagne de sensibilisation. Mais je dois dire que il n'y a pas que l'éducation du consommateur qui est à revoir, parce que quand on est sensibilisé, moi j'ai toujours un thermomètre dans mon réfrigérateur, on essaye de surveiller, mais en été, s'il y a une période un peu caniculaire, moi dans mon frigo, j'arrive pas à descendre en dessous de 10 degrés. Donc je pense qu'il y a une sensibilisation à faire au niveau des fabricants de réfrigérateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une courbe de croissance d'une bactérie? Comment ça pousse, une bactérie? Dans mon labo, moi, je fais des suivis d'évolution de la température et d'évolution de la croissance des bactéries dans des produits dans lesquels la bactérie est naturellement présente et puis dans des produits dans lesquels j'inocule la bactérie. Et je suis ce qui se passe. Donc là, j'ai une phase de latence. C'est une phase pendant laquelle la bactérie s'adapte à son nouveau milieu. Si je contamine un aliment, il y a une phase pendant laquelle ma population bactérienne va s'adapter. Donc, il y a une phase de latence. Après, une fois qu'elle est bien adaptée, elle pousse. C'est la phase exponentielle de croissance, elle se multiplie. Elle se multiplie d'autant plus vite que la température est plus élevée. Il y a une phase stationnaire, elle s'arrête de croître. Elle s'arrête de croître quand il y a 10 puissance 6 ou 10 puissance 7 ou 10 puissance 8 bactéries à un niveau très élevé. Et puis, il y a une autre phase que je n'ai pas figurée, c'est une phase de déclin. Alors, comment on fait ? Poursuivre la croissance. Soit, je viens d'en parler, on suit la croissance d'une manière expérimentale, hein, en comptant les germes chaque jour dans un aliment. Soit, il y a des modèles de microbiologie prévisionnelle. On modélise tout dans beaucoup de domaines. On modélise en microbiologie prévisionnelle. Et on a des logiciels qui s'appuient sur des modèles de microbiologie prévisionnelle. Je vais vous en présenter trois. Le premier s'appelle Pathogen Modeling Programme. Il a plusieurs fonctions. On va parler des trois premières. Il estime la croissance d'un micro-organisme. Il estime la destruction d'un micro-organisme. Donc on aura une courbe de destruction. Il estime la survie. Mais quand est-ce qu'on peut avoir des cas de survie ? quand le milieu est défavorable, imaginez une salmonelle qu'on met dans une mayonnaise. La mayonnaise, si vous mettez pas mal de vinaigre, elle est acide. Donc, elle sera acide et cette acidité freine le développement de la salmonelle, voire va jusqu'à la destruction de la salmonelle. C'est dans ce cas-là qu'on aura une courbe de survie. Alors, voilà comment ça se présente. Mais j'arrive plus à me faire marcher ça. Mon pointeur, je vais vous montrer. Alors, voilà, je veux simuler la croissance de Staphylococcus aureus dans un milieu liquide qui a les caractéristiques équivalentes à la crème chantilly avec ce logiciel qui s'appelle le MPP. Pourquoi dans un milieu liquide? Parce que ce logiciel ne s'appuie que sur des résultats de croissance en milieu liquide. Donc là, j'ai un déroulement et je choisis mon germe. J'ai choisi Staphylococcus aureus. J'aurais choisi mes conditions aérobie ou anaérobie. La crème chantilly, c'est à l'air, aérobie. Je choisis ma température, 10 degrés. Je choisis mon pH, 6-7. Je choisis ma quantité de sel. Après, le logiciel me demande, est-ce que tu veux de la courbe avec lag ou sans lag? Donc, lag, c'est le temps de latence. Je choisis avec lag. Est-ce que tu veux que l'échelle, ça soit le jour ou l'heure? Là, j'ai choisi le jour. Est-ce que tu veux que ça soit, je te donne les résultats sous forme de tableau ou de graphique? J'ai choisi graphique. Et puis, une fois que j'ai rentré toutes mes données, j'appuie sur Calculate Growth Data et il me donne l'évolution de mon staphylocoque à 10 degrés dans la crème chantilly. Et il m'extrait des paramètres, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est des paramètres de la courbe de croissance, c'est en gros la vitesse à laquelle mon micro-organisme va se développer. Alors ça, il y a une référence, c'est sur un modèle établi par Buchanan et ses collaborateurs, c'est un modèle américain. Alors, un autre logiciel, c'est un logiciel qui s'appuie encore sur le développement de micro-organismes dans des milieux liquides. Il s'appelle Combaz Predictor. C'est un logiciel anglais. Comment il fonctionne, celui-là? Vous choisissez votre germe. Il s'agit Clostridium perfringens. Vous choisissez, vous voulez une courbe de croissance, une courbe de décroissance. Je veux une courbe de croissance. Vous lui indiquez quel est le pH, quel est le NaCl de votre matrice, de la denrée qui vous intéresse, et puis la température. Et lui, il vous donne sous forme de tableau et sous forme de graphe l'évolution de votre micro-organisme. Alors, ce même logiciel, le Combaz Predictor, je choisis Salmonella. Mais au lieu de choisir l'évolution à température fixe, je choisis à température variable. Ben, en effet, votre aliment, pendant toute sa durée de vie, il va changer de température. Parce que vous avez vu la courbe de température que je vous ai présentée, elle est très variable. Et vous vous dites, là, cette fois, ben, je voudrais savoir ce que Salmonella, comment Salmonella se développe, mais je voudrais savoir aussi comment Staphylococcus se développe. Donc, je choisis deux germes, je choisis une température variable, je choisis mes caractéristiques physico-chimiques pH et AW, et puis, dans un cadre, j'inscris l'évolution de ma température. Au début, elle est à 7,5, au bout de 24 heures, elle est à 7, elle reste à 7,5, au bout de 48 heures, elle arrive à 8, ensuite elle monte à 10, et le logiciel, une fois qu'on a dit prédict, il vous donne l'évolution de la température et l'évolution de vos deux germes. L'évolution de Salmonella et l'évolution de Staphylococcus aureus. Donc vous pouvez se dire, ma denrée est plutôt sensible à Salmonella ou à Staphylococcus aureus. Et puis le logiciel français. Les Français sont assez bien, ont une bonne avancée dans ce domaine-là, dans le domaine de la microbiologie prévisionnelle, et ils ont fait un logiciel qui s'appuie sur des validations de modèles de microbiologie prévisionnelle dans des aliments et non pas dans des liquides comme l'ont fait les Anglais ou les Américains. Alors, je vous ai mis qui a participé à ça, des laboratoires de recherche publique comme l'INRA, l'École nationale vétérinaire d'Alfort, l'INAPG, des centres techniques, des industriels, alors des industriels qu'on connaît bien, Bel, Bongrain pour les fromages, Danone, Pernod Ricard, et puis les pouvoirs publics, ministère de la recherche et la DGAL, ça veut dire Direction Générale de l'Alimentation, c'est-à-dire c'est le ministère de l'Agriculture, enfin c'est eux qui ont payé pour le développement de ce logiciel. Alors, lui, comme les autres, mais maintenant que vous avez compris le principe, je ne veux pas m'attarder, il donne, là, c'est un modèle de croissance de Listeria monocytogenes dans un aliment à 10 degrés, c'est la courbe rouge, avec un intervalle de confiance, parce que il y a beaucoup de variabilité. Hein. Voilà, une courbe de croissance avec un suivi de température, donc une courbe de croissance quand j'ai un profil de température avec des profils variables. Je vais vous parler aussi de la destruction des bactéries par la chaleur. Et je vous ai mis là cette diapo les facteurs qui influencent la destruction. Ben, vous avez le genre de bactéries, vous n'allez pas détruire la courbe de destruction de température ne sera pas la même pour un Clostridium perfringens que pour une salmonelle, par exemple. Et le milieu. Votre bactérie sera d'autant plus difficile à détruire que le milieu est plus acide, que le milieu est plus salé, que le milieu est plus riche en sucre, que le milieu est plus riche en protéines et que le milieu est plus gras. Je vous ai mis quelques courbes de destruction, alors que tout à l'heure, je vous avais mis qu'une courbe pour la croissance, parce que la croissance, elle se fait toujours avec cette courbe sinusoïde là. Pour la destruction, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup là. Il y en a combien ? On a pu répertorier 8 courbes qui ont des allures différentes. Bon, ça peut être ce qu'on imagine, une courbe assez rectiligne, ce qu'on appelle l'ignidéaire, à une courbe qui présente un épaulement, une destruction rectiligne, et puis ce qu'on appelle une queue, une traîne. Alors, ça, c'est ma dernière diapo. Ces maladies alimentaires, c'est difficile de donner le nombre de cas. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il devrait y avoir une déclaration de fait quand on a une TIAC, une toxie alimentaire, une toxi-infection alimentaire collective. Et ça veut dire quoi une toxi-infection alimentaire collective ? C'est qu'il y a personne, il y a deux personnes malades à partir de la même source. Donc à partir de, si vous avez deux personnes malades dans votre famille, on peut déjà dire que c'est une TIAC. S'il n'y a qu'une personne, on dit que c'est sporadique. Et c'est difficile de les compter parce que normalement, on devrait le déclarer et puis on ne déclare pas parce que c'est un peu contraignant d'aller déclarer une diarrhée. Et puis parce que aussi, on ne sait pas, vous allez voir votre médecin, vous avez une gastro-entérite, s'il ne fait pas faire d'analyse bactériologique, on ne sait pas si c'est une bactérie, on ne sait pas si c'est un virus, on n'en connaît pas les causes. Donc on a fait une estimation. Et si on regarde le nombre de cas, qu'est-ce qui cause le plus de cas? Ça serait Salmonella et Campylobacter. Campylobacter, je ne vous en ai pas parlé parce que ce n'est pas une bactérie de la chaîne du froid, mais c'est une bactérie associée aux volailles. Et si on regarde Listeria monocytogenes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon, là, il y a à peu près 300 cas, mais ce qu'il y a comme particularité, c'est qu'il y a 78 décès. Et pourquoi il y a 78 décès ? Parce qu'on compte dans ces décès les avortements. Voilà, je pense que c'est la dernière diapo, oui. Je suis prête à répondre aux questions. Si... Vous en avez ?